me semble, cher Pierre Veil, que l'heure du journal de la semaine a sonné.
Avec nos invités, comme chaque semaine, Laurent Geoffrin, le directeur de Libération. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Et Alexis Brézet, directeur des rédactions du Figaro. Alexis, bienvenue.
Merci.
Et pour commencer, une phrase prononcée mardi par le Premier ministre Manuel Valls lors de ses vœux à la presse.
Ces derniers jours ont souligné beaucoup des maux qui rongent notre pays. Les tensions qui couvent depuis trop longtemps, la relégation périurbaine, les ghettos, ce que j'évoquais en 2005 déjà, un apartheid territorial, social, ethnique qui s'est imposé à notre pays.
Apartheid, Alexis Brézet, bien vu.
Je pense que le mot est malheureux, mais que derrière il y a une réalité. Le mot est malheureux parce que l'apartheid, c'est quoi? L'apartheid, c'est une politique raciste d'État. Je ne pense pas que Manuel Valls ait voulu dire qu'il y avait en France une politique raciste d'État. Évidemment non, mais c'est ça l'apartheid. Et ce qui me paraît malheureux dans l'usage du mot apartheid, c'est que ça accrédite l'idée qui déjà court trop souvent dans certains quartiers et dans certaines populations, que l'État est raciste, que l'État est méchant. Et donc renforcer ces populations dans le sentiment de victimisation, parce que qu'est-ce qu'on fait contre l'apartheid? Qu'est-ce qu'on a fait en Afrique du Sud contre l'apartheid? On se révolte. Donc du point de vue du calme et de la paix civile, le mot me paraît très malheureux, je le disais. En revanche, qu'il y ait en France des ghettos, qu'il y ait en France des zones de non-droit, qu'il y ait en France des quartiers où la police ne peut pas pénétrer, ça c'est une réalité, et contre ça il faut faire quelque chose.
Laurent Geoffrin?
Il aurait dû dire apartheid de fait. Ça aurait été clair. Il n'y aurait pas eu d'ambiguïté. Parce que c'est un fait que dans certains quartiers, dans certaines villes, les populations d'origine musulmane et les autres vivent de manière séparée. Hein, il suffit d'aller dans certaines villes du Midi, ça se voit tout de suite. Il y a des cafés où il n'y a que certaines populations, puis d'autres, il y en a d'autres. Ils ne se mélangent pas. Donc effectivement, c'est un problème très grave pour un pays républicain. C'est pas une politique d'État, c'est vrai. En plus, l'État fait beaucoup. L'État fait beaucoup pour améliorer le sort des gens dans les banlieues, pour essayer de corriger les inégalités territoriales. Donc de ce point de vue-là, il a tort. Mais autant dire les choses. On a tellement reproché à la gauche de nier, d'édulcorer la réalité. Pour une fois qu'on met les pieds dans le plat, il n'y a pas lieu de se plaindre. Ce qui m'a frappé, c'est la réaction de Nicolas Sarkozy. Parce que alors, je trouve que ça...
Il s'est dit consterné.
Son sens de la nuance sémantique et de la douceur de vocabulaire me frappe, quoi. Imaginez je sais pas, que Valls s'est dit il faut nettoyer les banlieues au Karcher. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit à ce moment-là?
Vous aviez hurlé à l'époque du Karcher. Vous ne pouvez pas reprocher à Sarkozy de hurler aujourd'hui. C'est exactement le même réflexe. C'est exactement la même chose.
Il hurle contre lui-même, alors.
C'est comme Sarkozy.
Mais il aurait dû hurler contre lui-même.
Pas tous ensemble, allez-y.
Oui, je disais que c'est exactement la même chose. C'est Valls, quand il dit apartheid, fait comme Sarkozy quand il a dit Karcher. Et je trouve, moi, que la droite a plutôt moins protesté... contre le mot apartheid Sarkozy que la gauche contre le mot Karcher.
Sarkozy aurait dû, à l'époque, se dire consterné par ses propres propos, à ce moment-là, non?
Oui, moi je pense que l'important, c'est les conclusions qu'on tire de tout ça. La logique, une fois que Valls avait dit ça, il aurait dû dire, eh bien, dans ces zones de non-droit, c'est ce que dit Malek Bouti, hein, fondateur de SOS Racisme, on doit envoyer la police, nommer des proconsuls, des préfets qui vont rétablir l'ordre, démanteler les trafics. Et tout ça, il ne le dit pas, il nous dit, on va faire une politique de peuplement. C'est un peu bizarre quand même ce mot de politique de peuplement. Moi, je me poserais plus des questions sur ce mot politique de peuplement que sur le mot apartheid. Politique de peuplement, c'est un petit côté kampuchéen démocratique quand même.
Il veut dire mélanger les populations, je suppose. Enfin, s'efforcer de rétablir une mixité sociale.
Le mot politique de peuplement est curieux, à mon avis, fait peur. Si on veut faire monter le Front National, il faut continuer à parler de politique de peuplement. Et si le débouché, c'est uniquement de durcir la loi SRU et de durcir la carte scolaire, je ne crois pas du tout que ça marchera.
Laurent Geoffrin, Alexis Brézet, autre événement de la semaine, l'arsenal antiterroriste annoncé par le gouvernement. Mercredi, 2700 emplois supplémentaires pour surveiller 3000 djihadistes en puissance, 7500 postes épargnés dans le budget de la défense. Au total, 735 millions d'euros consacrés au renforcement de la lutte contre le terrorisme. Alexis Brézet, c'est bien?
C'est très bien, évidemment. Plus de policiers, plus de gendarmes, plus de moyens, plus d'armes. Oui, plus de moyens juridiques pour les écoutes, pour poser des mouchards. Tout ça, c'est très bien. À mon avis, ce qu'il manque, c'est pas sur le volet sécurité. Ça, c'est bien fait par Valls et Cazeneuve. Ce qui manque, c'est le volet pénal. C'est très bien d'essayer, avant de prévenir un certain nombre de délits. Mais ce qu'il faut aussi, c'est une fois qu'ils ont été commis ou quand ils sont en cours d'exécution, et bien à ce moment-là, il faut réprimer, il faut mettre en prison. Et de ce point de vue, et bien il n'y a rien sur l'aménagement des peines, il n'y a rien sur l'incompressibilité des peines pour les terroristes, il n'y a rien sur les peines planchées, il n'y a rien sur la déchéance de la nationalité. Il manque, on a un très bon plan Valls-Cazeneuve, il nous manque un plan Taubira.
Laurent Geoffrin.
Non, je ne suis pas d'accord parce que les prisons sont déjà pleines.
Eh bien, il faudrait en construire. Voilà un élément qu'il faudrait dire.
Elles sont nombreuses. On ne peut pas dire que la justice soit laxiste. C'est complètement faux. Les condamnations tombent. Elles sont souvent sévères. Et bon, voilà, il faut simplement attraper les contrevenants et les délinquants ou les criminels. Et pour ça, il y a des moyens.
C'est une hypocrisie collective. Vous savez-vous que Mme Taubira a envoyé une circulaire à la justice pour dire... Pour les condamnations, tenez compte du nombre de places de prison. Dans ce pays, on adapte les condamnations au nombre de places de prison. Dans un pays normal, on adapterait le nombre de places de prison aux condamnations et aux délits. La vérité, c'est que personne ne veut dire, la droite avait un peu commencé à le dire, mais elle n'était pas allée bien loin, qu'il faut construire davantage de places de prison. C'est la vérité. Ben oui, mais c'est comme ça.
On mélange tout, là, parce qu'il y a les délinquants normaux, si je puis dire, les petits délinquants qui remplissent les prisons. Il n'y a pas besoin de les garder indéfiniment. Et de faire des lois pénales de plus en plus dures. Il faut concentrer les efforts qu'on fait, légaux, policiers, de renseignement, sur les gens qui sont absolument dangereux, c'est-à-dire les terroristes ou les gens qui sont
qu'est-ce
autour.
Qu'est-ce que prouve de l'analyse du cas des frères Kouachi ou de Koulibaly? C'est que ce sont des délinquants multirécidivistes. Il y a une solution de continuité. Tous les délinquants multirécidistes ne deviennent pas des terroristes.
Appliquer la loi,
mais la délinquance réitérée
ils ont passé beaucoup
et
de temps.
Le terreau du terrorisme.
Pas tous ensemble.
Ils ont passé beaucoup de temps en prison.
Laurent Geoffrin.
Que voulez-vous faire de plus? Ils ont été condamnés pour les délits qu'ils avaient commis. Attendez, on ne pouvait pas les condamner pour les délits qu'ils allaient commettre.
Non, mais on aurait pu prévoir un certain nombre d'exécutions de peine et d'aménagements de peine, ne pas appliquer un certain nombre d'aménagements de peine. En tout cas, dire qu'il n'y a pas de lien entre la petite délinquance, la multirécidive et le terrorisme, là, on a l'exemple concret que ça n'est pas vrai.
Je voudrais
juste insister sur un point.
Vous ne pouvez pas les garder en prison au-delà de leur peine.
Madame Taubira, pendant les prises d'otages de l'hypermarché Kacher, a sorti une circulaire pour dire dorénavant, il faudra que les aménagements de peine des délinquants multirécidivistes soient plus généreux et qu'on les aligne sur les primo-délinquants. Et bien ça, c'est une folie.
Je ne crois pas du tout, parce que ce qui compte, c'est le suivi individuel et c'est l'encadrement judiciaire. Vous allez augmenter le nombre de mois de prison, qu'est-ce que ça va changer? En plus, c'est en prison que souvent ces gens-là sont fanatisés, donc plus vous voulez... La tactique est la suivante, ça consiste à dire, on regarde ce que fait le gouvernement et on demande plus. Alors s'ils font X, on demande 2X, s'ils font 2X, on demande 3X, etc.
Vous allez renverser votre verre, mon cher Laurent.
Ça n'a pas de sens.
Emporté par vos paroles.
Exactement.
Dernier événement qu'on évoque, tous les sondages le montrent, l'envol de la popularité de François Hollande, un bon record de 20 points, conséquence de sa gestion des attentats et de l'élan d'unité nationale qui a suivi. Est-ce une bulle spéculative, pour reprendre l'expression de certains membres de l'opposition, Laurent Geoffrin?
Moi, je crois qu'il revient à un étiage à peu près normal, parce qu'il n'est pas non plus hyper populaire. Il a regagné beaucoup de points, mais il reste quand même à un niveau assez bas, qui est assez logique, vu qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises au début du quinquennat, premier point. Et deuxième point, les résultats économiques qui avaient été promis ne sont pas au rendez-vous. Donc, il ne peut pas être très populaire. Simplement, le niveau auquel il était descendu était totalement anormal. Il était largement lié à la campagne outrancière qui était menée par un certain nombre d'hommes politiques d'opposition.
L'opposition est méchante
avec
François Hollande.
Journaux comme Le Figaro qui n'arrête pas de manière incroyable.
Si bon, on se demande pourquoi l'opposition est si méchante
avec lui.
Vous ne pouvez pas reprocher à l'opposition de s'opposer. Personne n'a reproché à l'opposition de s'opposer à Nicolas Sarkozy. C'est la vie, c'est comme ça.
De manière outrancière,
la vérité, c'est que François Hollande a déçu d'abord ses adversaires, ça c'était facile, et puis ses partisans. Et l'immense majorité des électeurs de gauche étaient très déçus. Ils se disaient, finalement, ce gars-là n'est pas à la hauteur. Et c'est vrai que, durant ces récents événements, il a repris de ce côté-là. Pour autant, effectivement, là, je suis d'accord avec vous, il n'est pas très populaire. Quand on regarde, notamment, les souhaits de candidature, doit-il se représenter, ferait-il un bon président, c'est pas bien fort. Il y a aussi des précédents qui montrent que, par exemple, en 91, quand François Mitterrand a bondi après la guerre du Golfe, il est retombé aussitôt. Tout ça, nous verrons bien. Il ne faut pas s'emballer non plus.
Laurent Geoffrin, Alexis Brézé, merci beaucoup. Et à la semaine prochaine, Patricia Martin.
Et il est l'heure de Parlez-moi Médias.